un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une histoire symptomatique, relativement accablante, mais qu'il faut écouter jusqu'au bout si on veut saisir le chemin qui a été parcouru depuis 20 ans dans notre pays et ailleurs en Europe, si ce n'est dans le monde. Le 21 avril 2002, souvenez-vous, en France, Jean-Marie Le Pen était arrivé au second tour de l'élection présidentielle avec 16,86% des voix. La France est sous le choc. Des millions de personnes sont dans la rue et le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, assume l'échec de son gouvernement avec ces mots « Au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. » À Saint-Brieuc, d'où part notre histoire aujourd'hui, ils sont plus de 10 000 à manifester en 2002 pour faire barrage. Mercredi 20 avril 2022, à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ils étaient 130 pour dire non à l'extrême droite. Que s'est-il passé entre ces deux dates est seulement une question que nous pourrons avoir à l'esprit et qui devrait nous interroger en écoutant cette enquête sur la banalisation de l'extrême droite en terre bretonne, laquelle contient à la fin des propos racistes et xénophobes extrêmement choquants que nous avons décidé de diffuser en précisant une fois de plus que le racisme n'est pas une opinion mais un délit. Enquête et reportage par Karine Lelouette.
Je suis à la Serre, un lieu alternatif de Saint-Brieuc. C'est ici que plusieurs collectifs ont leur quartier.
Bon, on peut faire le tour si vous voulez.
Ah ouais, alors du coup, racontez-moi un peu. Là, c'est quoi, c'est une salle de...
Ici, c'est vraiment la salle du réveillon.
Il y a des militants écolos, un groupe queer, une chorale, une cantine populaire.
Ça peut être un lieu de conférence, de formation.
Ouais, c'est la salle multifonction et puis oui, quand il y a des projections aussi.
D'accord.
C'est ici aussi que le CVA22, le comité de vigilance antifasciste des Côtes d'Armor, se réunit. Et c'est un de ses membres, un peu enrhumé, qui me fait la visite.
Moi c'est Sacha, j'ai la trentaine bien tassée. Je suis venu à l'antifascisme suite à mon militantisme syndical. J'étais encore à Sud étudiant lorsque Clément Méric avait été assassiné. C'était un camarade de syndicat. Et suite à cet assassinat, je me suis retrouvé moi-même menacé sur Internet. Et c'est là où j'ai vraiment pris la conscience de s'organiser pour travailler concrètement sur les menaces que représente l'extrême droite et d'essayer de contrer leurs discours et leurs actions.
Ça fait 8 ans que Sacha milite au sein de son organisation. 8 ans de manifs, de tractages, d'événements culturels souvent bon enfant, dans cette région historiquement bien ancrée à gauche. Pourtant, le 14 décembre dernier, le ton s'est durci. Avec d'autres collectifs, quelques syndicats et partis politiques, le CVA a créé le Front commun antifasciste.
Il importait de pouvoir créer un espace où chacun puisse venir réfléchir à qu'est-ce que l'on peut opposer à la violence que nous propose l'extrême droite.
Une violence qui, depuis quelques mois, explose.
Ça a commencé sur Saint-Brieuc en 2023. C'était des collages d'autocollants, de stickers, sur les locaux du planning familial. Et puis ensuite est venu le tour de locaux d'organisations politiques comme le PCF, comme l'UDB, l'Union démocratique bretonne. Courant du mois de mai, dans une petite ville du centre-Bretagne qui s'appelle Rostrona, là, c'est l'union locale CGT qui en a fait les frais avec des vitres brisées, des tags à caractère néo-nazi. Ils s'en sont aussi pris aux locaux du Secours populaire et du kebab local. Au mois de mai se tenait la marche des fiertés LGBT. C'est là où ça a été vraiment flagrant, cette flambée d'exactions d'extrême droite. Le village de la Marche des Fiertés avait été totalement tagué, ainsi que tout le parcours du cortège de la Marche des Fiertés.
Et puis vient le 1er juillet. Ce jour-là, le comité antifasciste organise un festival pour une Bretagne ouverte et solidaire, en plein centre de Saint-Brieuc.
Nous, organisateurs, quand on est arrivé sur place pour monter toute l'installation, on a trouvé de nombreux tags clairement nazis, avec des écritures « Négro dehors », des références au Ku Klux Klan, au White Power. Donc voilà, dès le matin, l'ambiance, elle était donnée. Et pendant qu'on montait, on avait déjà repéré des personnes qui étaient là pour faire le guet, qui tournaient autour du site du festival dès le matin. Le festival s'ouvrait sur une conférence débat, suivie ensuite de concerts, et puis il y avait des tables de presse, stands de restauration, voilà, une atmosphère conviviale. L'objectif était de pouvoir sensibiliser, de créer un espace de discussion sur la question de la menace fasciste. Et il se trouve que sur les coups de 19h, alors que la dernière artiste montait sur scène et allait démarrer son concert, là il y a un groupe d'une petite vingtaine, en fait 17 individus, qui sont arrivés par une rue. J'ai compris immédiatement qu'il se passait quelque chose de pas normal.
Ce jour-là, pas loin de Sacha, il y a aussi Marie. Bénévole à la serre où elle s'occupe de la cantine populaire, elle est venue faire des crêpes pour le festival.
Moi, j'ai juste entendu « facho, facho, facho ». Je me suis retournée vers l'entrée et là, j'ai vu un groupe qui voulait rentrer avec des personnes peut-être 2 mètres de haut, cagoulées, barres de fer à la main, mais des molosses, quoi. Enfin, impressionnant. Ça criait, ça cassait, ça tapait. Ouais. Et moi, je suis partie dans l'autre sens en laissant mes affaires et en laissant le gaz allumé. Et là, je me suis dit, non, mais le stand, il va prendre feu. Enfin, j'ai eu très peur.
Autour de Marie, les gens commencent à filmer. C'est le son de ces vidéos que vous entendez.
Moi, j'ai tout de suite alerté autour de moi les copains et les copines pour pouvoir les repousser, en prenant en considération qu'ils étaient armés, puisque ces personnes-là donc étaient cagoulées, ils avaient des protège-dents, ils attaquaient avec des matraques télescopiques. Et ensuite, ils ont aspergé les gens de gaz lacrymogène et lancé des feux à main sur la foule, sur les stands. Il y a même un feu à main qui a atterri juste à côté d'une aire de jeu pour enfants, ce qui a généré un mouvement de panique. Il a bien fallu que l'on réponde avec ce que l'on avait pour pouvoir protéger à la fois le public et puis les mettre en fuite. Et cette réponse collective a été heureusement efficace. Ils sont partis en courant, les mains en l'air, se réfugier derrière un camion de police. Et puis ont quitté les lieux immédiatement.
Et après, ben, moi je suis sortie par une des barrières et puis... On s'est retrouvés à 5 filles, là, complètement retournées. Moi, j'étais en pleurs, hein. J'étais vraiment très, très surprise. C'était très violent. Ouais, c'était très, très dur, ouais.
Lorsqu'ils sont partis, ben, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient été blessées, plusieurs avec des plaies ouvertes, notamment au niveau des membres, suite à des coups de matraque télescopique. Et puis autrement, des commotions dues à des coups, notamment des coups de chaise ou des jets de projectiles. Le soir, on est resté longuement discuter avec les copains, copines de l'organisation. Clairement, on ne pouvait pas s'attendre à une attaque de cette ampleur. Jamais on n'aurait imaginé qu'ils auraient osé s'attaquer directement, en plein jour, en plein centre-ville, à l'événement lui-même tel que ça s'est passé, et de façon si décomplexée que ça. Je pense qu'il y a quelques années, jamais on n'aurait pu assister à cela, quoi.
Après le festival, 2 personnes sont interpellées, puis relâchées au terme de leur garde à vue, le temps que l'enquête détermine s'ils ont participé à l'attaque. Mais les groupes d'ultra-droite n'ont pas dit leur dernier mot. Ont-ils compris que les antifas se réunissaient à la serre? En tout cas, le 17 novembre, alors que Marie prend l'apéro avec 4 camarades, 3 hommes armés de barres de fer font irruption dans le lieu et cassent tout. Arrêtés en janvier, ils attendent leur procès. Chez l'un d'eux, la police a retrouvé une machette, une carabine, des munitions. Chez les 2 autres, 2 frères, elle a saisi du matériel informatique avec pour objectif
établir ou non leur participation au fait du 17 novembre et peut-être retrouver des éléments qui peuvent intéresser d'autres enquêtes en cours.
Lui, c'est Nicolas Hetz, procureur de Saint-Brieuc. Depuis quelques mois, sur son bureau, les dossiers s'accumulent. Attaque du festival et de la serre, tag néo-nazi et dégradation à Rostrenin, Guingamp ou Guerlédan, ou encore profanation de la Butte Rouge, un monument qui célèbre la mémoire de 55 résistants.
Moi, je suis là depuis un petit peu plus de deux ans et demi. Je suis préoccupé par la multiplication de ces infractions. Je peux dire que oui, il y a une multiplication du nombre d'infractions et de leur gravité. C'est-à-dire qu'on a des messages de haine en ligne, on a de nombreuses dégradations par inscription avec un caractère souvent antisémite, on a la distribution de tracts et on a aussi parfois plus grave des violences aussi physiques de la part de personnes qu'on peut qualifier d'extrême droite et pour des motifs politiques. C'est extrêmement compliqué de faire un lien entre ces affaires, entre ces personnes. Après, je peux avoir une opinion personnelle, hein. Je pense qu'il y a aussi un effet d'opportunisme, hein, et d'infractions qui ont été commises par entraînement, je dirais, par mimétisme, sans effectivement que ça crée du lien entre leurs auteurs.
Des individus isolés ou rassemblés en petits groupes, qui ruminaient jusqu'ici dans leur coin leurs idées nauséabondes, mais agissent désormais au grand jour. Que s'est-il passé pour qu'ils osent ? Quand j'ai posé la question à Sacha, à Marie ou à d'autres victimes d'attaques récentes, tous ont évoqué le même point de départ.
La mairie a voulu être gentille, en fait, pouvoir installer du monde dans le canton. Il y a des gens qui sont venus de toute la Bretagne, des racistes, hein, qui sont venus contrer le projet.
L'affaire de Calac.
Ça nous a fait vraiment honte, parce que c'est vraiment pas l'ambiance de Calac.
Du gâchis. Juste du gâchis, ouais.
C'est une affaire qui commence en 2021. Dans un petit village situé à une soixantaine de kilomètres de Saint-Brieuc. À l'époque, Calac accueille déjà une poignée de familles venues de Syrie, du Darfour, du Nigeria. Le village répond ainsi à l'obligation légale de prendre une part dans l'accueil des réfugiés. Et ça se passe bien. Alors une famille d'entrepreneurs mécènes s'intéresse au village. À la tête d'un fonds de dotation privé, le fonds Merci, il cherche un endroit pour implanter un tout premier lieu d'accueil innovant pour familles réfugiées. À l'époque, Laureline Inderbitzin, communiste, est adjointe au maire de la ville.
Merci beaucoup, merci.
Avec le reste de l'équipe municipale, elle découvre ce projet, le projet Horizon.
Au départ, il était question d'un projet qui permet de revitaliser la ville, en partant du postulat suivant, accueillir des personnes étrangères, c'est une chance pour nous pour dynamiser notre territoire. Comme beaucoup de petites villes rurales, depuis les années 70, on a un exode massif. Les gens vont chercher du travail en ville, ne restent ici que les personnes qui reviennent en retraite. Les artisans peinent à recruter, les entreprises ont du mal à trouver des personnes, des actifs.
Le projet prévoit donc d'accueillir des réfugiés dans les maisons vides du village. Il imagine aussi des structures pour attirer de nouveaux habitants. Une recyclerie, des jardins, un café, une librairie, peut-être même une crèche.
Le projet, avant de se lancer, évidemment, on en discute, on travaille ensemble, main dans la main, pendant une petite année. Et ensuite, on décide de signer une convention de partenariat avec la ville de Calac et le fonds de dotation Merci.
En avril 2022, la municipalité tient une première réunion d'information pour présenter les grandes lignes du projet. La famille Cohen, propriétaire du fonds de dotation, est présente pour répondre aux questions d'une centaine d'habitants. Mais dans la salle des fêtes du village, il y a aussi
une poignée de néo-nazis au fond de la salle. Debout, pas assis. Des jeunes hommes moins de 30 ans, cheveux longs, un peu barbus, bombers. Ils étaient là pour nous fixer, nous toiser, ricaner, les bras croisés. Suite à cette réunion, on a pris un casse-croûte ensemble. Et ensuite, pendant ce temps-là, cette équipe de néo-nazis a clairement tapissé la ville de Calac d'autocollants fascistes. Il a fallu qu'on escorte la famille Cohen jusqu'à son hôtel pour être sûr qu'il ne se passe rien. Ça, c'était le premier jour.
Dès le premier jour aussi, les informations circulent dans le village. Elles arrivent aux oreilles de Danielle Lemaine, institutrice à la retraite et calacoise, me précise-t-elle, depuis au moins trois générations. Lorsque je suis venue à Calac, elle était souffrante. Je la rappelle quelques jours plus tard, au téléphone.
J'ai un ami qui avait, moi j'étais pas là donc j'étais en vacances, qui a assisté à la première réunion. Il était un peu effrayé de ce qu'il venait d'entendre. Il m'a dit, voilà, c'est créer un village multiculturel dans le bourg, quoi. Lui, il m'a parlé de 60 familles qui allaient arriver à Calac, des familles qui venaient, non pas de Paris, mais d'Afrique, quoi, ou d'extra-européens, toujours est-il. Pas moi, c'est très clair, l'islamisme me fait peur. Les musulmans, j'ai rien contre eux, ils ont leur religion, c'est tout à fait normal, quelles que soient les religions, il n'y a pas de problème, mais on ne m'impose pas les us et coutumes de leur religion. Tout ce qui est l'islamisme radical, pour moi, je peux pas. Je ne peux pas.
Mais qui vous dit que les réfugiés qui auraient été accueillis par Horizon...
Qui vous dit le profil de ceux qui sont déjà. Actuellement, à Calac, on a des familles qui ne sont pas chrétiennes.
Et tout le monde me dit que ça se passe bien, non?
Oh, parfaitement, ça se passe super bien, parce qu'on ne les voit absolument pas. Donc, ils ne vont pas dans les commerces. Ils ne font pas vivre la ville. Les trois quarts ne s'intègrent pas. La ville de Calac est une ville de 2200 et quelques habitants. Si vous ajoutez un nombre certain de familles au centre-ville, quand vous savez qu'ils ont 5, 6, voire là on en est à 8 ou 10 enfants par famille, vous arrivez à la moitié de la population qui est étrangère. On essaye de remplacer une population vieillissante par des étrangers qui viennent repeupler la commune. Moi, je suis bretonne. Mon père m'a inculqué les valeurs bretonnes, celtes, que j'ai transmises à mes enfants, qui transmettent eux-mêmes à mes petits-enfants. Et donc, c'est vrai que je préfère qu'il y ait une bonne crêperie à Calac qu'un kebab. Qu'on efface notre culture par une autre, non. Moi, je voulais m'exprimer. Donc, des amis me disent « mais il faut que tu fasses quelque chose ».
Alors, Daniel Lemaine monte l'association Les Amis de Calac, avec deux autres habitants opposés au projet, Moulay Drissi et Michel Rioux.
À partir de ce moment-là, une poignée de personnes, chaque mercredi le jour du marché, vient sur le marché donc faire signer des pétitions, dépose des pétitions dans certains commerces. On y va de la surenchère du nombre de personnes qui vont être accueillies. Au départ, on nous parle de 70 familles, après c'est 700 personnes, après c'est 1000 personnes, et ensuite on arrive à non à l'africanisation de Calac. On arrive à un grand délire comme ça. C'est un projet pilote. En aucun cas, il avait été mentionné quelques chiffres que ce soit. À partir du moment où on a une pression, où des gens sont là à faire signer des pétitions chaque mercredi, Calac c'est petit, hein. Plus d'un tiers de retraités, on fait vite peur aux gens.
Les opposants au projet veulent organiser une manifestation en septembre, mais hésitent, car la tension monte dans le bourg.
J'apprends par M. Rioux, Reconquête va faire une manif, et on n'est pas au courant. Donc lui, il avait été en contact avec une personne de Reconquête, et donc je contacte cette dame, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Je lui ai dit que j'étais très en colère, que nous, on n'était pas politisés, qu'on voulait exprimer notre point de vue. J'ai dit, mais bon, ben moi, je veux absolument intervenir à cette manifestation en tant que Calacoise. Je veux que les Calacois sachent qu'il y a des Calacois qui sont contre ce projet et qui osent le dire. Reconquête est intéressée parce qu'ils étaient contre le grand remplacement, contre le fait de déplacer des familles d'Afrique, de les amener chez nous. C'est normal.
Le grand remplacement, c'est une théorie popularisée par Renaud Camus, un écrivain d'extrême droite condamné en 2014 pour provocation à la haine. Cette théorie, réfutée par les statisticiens, stipule qu'en l'espace d'une génération, le peuple français dit « de souche » pourrait être remplacé par des immigrés, avec la complicité des élites.
Donc ces personnes-là ont permis à Reconquête de se saisir du sujet. Avec leur théorie du grand remplacement, clairement, ils veulent trouver un cas concret dans le milieu rural. Et pour eux, Calac, c'est une aubaine. Ils veulent décrocher Calac comme un totem.
Mais les défenseurs du projet n'entendent pas se laisser faire. Le 17 septembre, Calac est finalement le théâtre de deux manifestations. D'un côté, les pro-horizons, de l'autre, les anti, qui battent le pavé devant la mairie.
À partir du moment où on a 500 personnes sur une place, 300 sur l'autre, 150 CRS entre eux, vous imaginez dans un bourg de 2000 personnes, ce que ça fait ? Le ton monte, le cortège des pro-horizons, nous avons des groupes justement comme CVA, Comité de Vigilance Antifasciste, qui va être en tête de cortège et essayer d'aller contrer les manifestants anti-horizons, qui sont eux souvent masqués, bandés, voilà, avec des drapeaux néo-nazis sur la place. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Ce sont des gens qui débarquent d'ailleurs et qui sont venus mettre le bazar dans Calac. On n'a pas tant que ça de Calacois. Une poignée.
Oh, c'est ça. Ouais. Moi aussi, je suis néo-nazi alors. Hein. Parce que moi, j'ai parlé avec certains d'eux, des jeunes. Hein, ils n'étaient pas plus néo-nazis que moi. Hein. Ils ont arrêté de dire n'importe quoi. Il n'y avait pas de néo-nazis dans nos rangs. Et rien du tout.
Des sites d'extrême droite comme Brésinfo et Riposte Laïque entrent à leur tour dans la bataille. Ils relaient un appel à manifester une deuxième fois à Calac. Ce sera le 5 novembre. À la tribune, des figures de Reconquête prennent la parole. Bernard Germain, ex-candidat aux législatives dans les Côtes d'Armor.
Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je me retrouverais à Calac.
Ou Gilbert Collard, député européen zémorien, qu'on entend dans ce reportage d'Envoyé spécial.
Je ne voulais pas que viennent s'installer par le décret du maire des migrants. On n'a rien contre les migrants, mais j'en veux au principe, au système qui décide de changer la vie des gens. Vous êtes des patriotes. Merci pour la patrie et vive la France!
Calac! Calac! Laissez
On a des cars qui arrivent de Vendée, des chouans qui arrivent en sabots de bois. Pour la deuxième fois, on a le défouloir de racisme, de haine de l'autre, sur une place publique, sur la place de la mairie, avec à peu près 500, 600 personnes, je ne sais pas exactement, qui sont présentes. Mais on était clairement dans un discours de haine et de racisme.
Laureline Inderbitzin, elle, participe à nouveau à une contre-manifestation, avec dans ses rangs des antifas.
C'est plutôt bon enfant, on a des fanfares, des gens qui se rassemblent mais de manière un peu plus festive. Des gens qui montrent que la mixité des cultures est plutôt une richesse et que la Bretagne est une terre d'accueil solidaire. Dans un deuxième temps, malheureusement, un cortège qui se met en place et qui monte pour aller à la rencontre des néo-nazis. Les personnes antifascistes sont littéralement gazées avec du lacrymo pour les empêcher d'accéder à la place de la mairie par les CRS. À partir de ce jour-là, certains élus ont décidé d'abandonner le projet Horizon car ils ont fait l'amalgame Horizon égale bordel. Voilà, et la solution pour retrouver le calme, eh ben, c'est de céder face à l'extrême droite.
Mais l'élu communiste, elle, ne veut pas céder et l'affirme haut et fort. Depuis plusieurs mois déjà, le maire reçoit des menaces de mort par lettre ou mail. C'est désormais son tour.
À partir de ce moment-là, donc c'est au mois de novembre, je suis la cible d'un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, notamment sur le site Riposte Laïque. Donc, des articles de presse, des autocollants de groupuscules sur ma boîte aux lettres pour me signifier qu'ils savent bien où j'habite. Le feu dans ma poubelle, juste à côté là de ma porte d'entrée. Des courriers également dans ma boîte aux lettres. Oh, je vais vous en montrer, oh, c'est assez drôle. Hein. Pourquoi faire venir des migrants en Bretagne? Avec leurs couteaux, ils sont prêts à tuer pour un regard ou pour une cigarette qu'on refuse de leur donner. La racaille bougnoule négro n'a rien à faire à Calac. L'Europe, c'est pour les blancs. Et l'Afrique, le meilleur endroit pour les singes et les ordures. Calac ne deviendra pas une poubelle, puisque c'est ton rêve. En espérant qu'un sale nègre te violera et te découpera en morceaux, puisque tu les aimes tellement. Ta mère aurait mieux fait d'avorter. Si tu n'aimes pas les gens comme toi, les blancs, tu peux partir, on ne te retient pas. Ou alors ce genre-là. Oh, il y en a d'autres, hein, des plus courtes. Alors ça, c'est trois lettres, P-A-N, et en dessous, on me met pute à nègre. On détruit quelqu'un comme ça. Petit à petit, même si on a l'impression que ça ne nous affecte pas, ça nous affecte. En parallèle de ça, le groupe des Amis de Calac tracte. Des tracts sur lesquels est bien indiqué mon nom, que je suis un danger pour Calac, etc. Donc quand on vit à Calac, quand on travaille à Calac, quand on est élu à Calac, et qu'on a son nom avec des propos méprisants qui sont indiqués dessus, qui se retrouvent dans la boîte aux lettres de tous les Calacois, je peux vous assurer que ça fait quelque chose.
Harcelé, menacé, le maire annonce finalement le retrait du projet lors de la traditionnelle cérémonie des vœux en janvier 2023.
Bon, on a gagné. Hein. Nous, on était contents, on a fêté ça, hein. C'est pas un problème. Hein. On a ouvert la bouteille de champagne. Hein. On avait sauvé une partie du patrimoine calacois. Et puis, les calacois étaient soulagés. On a eu plein de remerciements de calacois quand même. Après, il faut peut-être le savoir, ça aussi. Depuis le départ d'Horizon et la suite, beaucoup de personnes viennent me dire bonjour, me sourient. Alors, évidemment, ceux qui sont... le noyau dur qui était pour Horizon et qui sont la municipalité actuelle, là, sont pas aimables du tout. Bon, ça, c'est moins qu'on puisse dire. Je me disais, ils vont peut-être essayer de refaire le même projet ailleurs, mais enfin bon, vu le résultat à Calac, peut-être certaines populations vont oser dire ce qu'ils pensent.
Calac comme détonateur ? En tout cas, Bernard Germain, l'ex-candidat Reconquête très actif dans le combat contre Horizon, s'est saisi de cette victoire. Sur son site, Partout Calac, il dispense désormais des conseils à ceux qui seraient confrontés à l'arrivée de migrants dans leur quartier ou leur village. Est-ce que l'abandon du projet a galvanisé l'extrême droite ? A-t-il donné des ailes à ses partisans, qui ont ensuite tagué, dégradé, pris d'assaut des lieux et cogné des militants dans la région ? Sur les vidéos d'attaque à Saint-Brieuc, on reconnaît en tout cas parmi les assaillants les visages d'hommes présents à Calac lors des manifestations. Des hommes tout en noir, point américain et matraque télescopique à la main. À Calac, cela fait un an que le projet a été abandonné. Comment vont les choses à Calac aujourd'hui ?
Les choses vont assez bien. L'abandon du projet Horizon n'a pas freiné l'accueil des personnes réfugiées. C'est une compétence de l'État et on a eu la chance d'accueillir d'autres familles syriennes et soudanaises sur Calac. Donc les enfants sont bien intégrés, ils font partie des clubs sportifs, de l'école, ils parlent déjà bien français. L'accueil de l'autre continue. Malheureusement, il n'y aura pas ce projet plus structuré qui était proposé par Horizon.
C'était Saint-Brieuc-Calac, que faire de l'extrême droite, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Éric Lancien. Merci à Sacha, à Marie, à Laureline, à Inderbidzine, à Sylvie et Denis Lagrue, à Daniel Lemaine, à Nicolas Hetz et à Erwan Chartier. C'est Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et c'est Nour Mohammadi, notre stagiaire.